Artisans de paix. Artisans de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
L'émission Artisans de paix a commencé en septembre et nous allons la conclure avec Alain Refallo en cette fin de juin 2024. Alain Refallo, bonjour.
Bonjour Yves.
Alors vous êtes déjà venu dans cette émission, témoigner de votre engagement dans la non-violence. Et au cours de ces deux émissions, je vous propose que nous abordions la question de la guerre. De la guerre face à la non-violence, que dire, que faire, que penser. Je rappelle que vous êtes un militant de la non-violence depuis plus de 40 ans, que vous avez cofondé le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées à Colomiers en 2023, je crois.
2003.
Oui. Que vous êtes professeur des écoles et que vous avez publié plusieurs ouvrages. 2023, c'est justement la publication « Le paradigme de la non-violence ». Un gros livre, je crois.
Oui, un livre de réflexion, de recherche autour du mot et de l'idée de non-violence dans l'histoire.
Alors, votre engagement date des années 80 et en particulier dans le mouvement pour une alternative non-violente à Toulouse.
Et oui, d'ailleurs, je suis toujours membre du mouvement pour une alternative non-violente. Je suis même l'un des trois co-porte-parole national.
D'accord. Et vous avez été objecteur de conscience au service militaire en 1985, d'après ce que j'ai compris. Et vous avez travaillé, j'ai noté, comme chargé de mission à l'Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits.
Oui.
C'est une institution qui existe toujours ?
Oui, c'est une association qui est toujours en activité, qui mène des recherches, des travaux de recherche avec des universitaires notamment sur tout ce qui est alternative à la défense militaire, tout ce qui concerne le domaine de l'intervention civile de paix, hein, des interventions en zone de conflit pour faire en sorte que les parties en conflit puissent retrouver la voie du dialogue. Donc il y a tout un processus. C'est un institut voilà, qui existe depuis plus de 40 ans maintenant et qui a fourni de nombreuses études.
Voilà, de ce processus et des études, on va en parler. On connaît votre réflexion donc, sur le sujet de la non-violence. Et donc, en effet, il y a deux conflits majeurs actuellement, l'Ukraine en Europe et Gaza au Moyen-Orient. Alors, comment réagit un militant de la non-violence face à ces situations terribles ?
Alors, c'est une vaste question. On est toujours un peu atterré de voir que au XXIe siècle, on utilise les mêmes instruments, finalement les mêmes outils pour régler les différends entre nations, les outils de la guerre. Et il est vrai que nos États investissent considérablement dans les instruments de guerre, les instruments militaires. Et lorsqu'un conflit survient, les seuls outils à disposition sont les outils militaires. Je pense qu'aucun peuple n'a envie de faire ou de subir la guerre. Tout le monde est pour la paix, mais finalement, tout le monde prépare la guerre. Et tout le monde s'accommode, surtout de la guerre qui est finalement perçue comme une fatalité de l'histoire, une fatalité des relations entre les peuples et les États. Je pense qu'il serait temps de prendre conscience que la guerre, justement, n'est jamais une solution, qu'elle sera toujours un problème. Et alors on pourra rentrer un peu plus dans le détail des conflits que vous venez d'aborder, mais je pense que tout le monde peut voir que la logique de guerre mène à des destructions, mène à des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et jusqu'à quand faudra-t-il attendre pour que l'ONU, par exemple, hein, l'Organisation des Nations Unies, joue véritablement son rôle depuis depuis sa création en 1948, c'est justement de prévenir et voire de régler les conflits par le dialogue, par la diplomatie. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout cela n'existe plus. Seules les armes parlent. Jusqu'à quand, combien de morts faudra-t-il encore pour que les États prennent conscience de l'impasse dans laquelle ils se trouvent, et combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que les populations, les peuples se réveillent et disent non fermement à la guerre?
Et oui, donc la paix est toujours annoncée comme objectif, mais c'est la guerre que l'on active. Alors, tout le monde dit, la guerre est une horreur, est un désastre. Les militaires en premier le disent et le reconnaissent. Et pourtant, en effet, on a du mal, on ne sort pas de cette voie pour régler les conflits. Alors, vous avez cité la résistance civile, c'est des choses possibles ou est-ce qu'on est dans l'utopie de penser qu'on puisse trouver d'autres moyens pour régler les conflits que la guerre ?
Alors, si on prend le cas de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous sommes là dans un schéma qu'on a déjà connu dans le passé. Ce n'est pas parce qu'un pays a été envahi qu'il se trouve sans défense. Alors, évidemment, les Ukrainiens, et personne ne viendra leur jeter la pierre, ont choisi la voie de la résistance armée, de la résistance militaire. Donc, ils combattent pour sauver leur pays, défendre leur territoire, et nul ne saurait leur reprocher. Et en même temps, il y a aussi des citoyens en Ukraine qui ont fait le choix d'une autre forme de résistance qu'on appelle la résistance civile, donc une résistance sans armes. On a connu ce type de résistance sous l'occupation, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu partout en Europe. Il y a eu des mouvements de population, il y a eu des grèves, il y a eu des actions de sabotage non meurtriers aussi. Il y a eu des actions de non-collaboration, des actions pour sauver notamment les populations juives qui étaient menacées. Donc il y a, sans parler toute la presse clandestine, les radios clandestines, il y a tout un processus de résistance possible lorsqu'on n'a pas d'armes, qui a montré, et d'ailleurs Jacques Semlin, écrivain, historien, a écrit un ouvrage sur cette période, « Sans armes face à Hitler, la résistance civile sous l'occupation nazie », qui est absolument éclairant, puisque c'est une analyse complète, quasiment exhaustive, de tous les cas de résistance civile durant l'occupation nazie. Et on peut comprendre à travers la lecture de cet ouvrage que finalement, les cas de résistance civile ont été très importants. Ils sont méconnus et surtout, ils ont été plutôt efficaces. Et d'ailleurs, juste une anecdote à ce propos, un général britannique, Basil Liddell Hart, après la Seconde Guerre mondiale, a enquêté auprès d'anciens généraux allemands. Et ce qu'il avait recueilli comme témoignage laissait entendre que finalement, ils étaient extrêmement bien préparés pour faire face à une résistance armée, une résistance militaire, mais qu'ils étaient totalement démunis face à une résistance civile d'une population déterminée à se défendre, à se battre, sans forcément faire usage des armes. Et ils étaient soulagés finalement quand les deux types de résistance étaient mélangés en quelque sorte, parce qu'ils n'avaient donc aucun scrupule, si je puis m'exprimer ainsi, pour réprimer les deux formes de résistance de façon indistincte. Et donc, à travers ce témoignage, finalement, il reconnaissait toute l'efficacité de la résistance civile. Alors bon, voilà, nous sommes dans une culture de la violence et de la guerre qui fait que on ne tient pas compte finalement des leçons de l'histoire. La résistance civile, dans de nombreux contextes, a montré qu'elle pouvait être efficace par la mobilisation populaire, par l'organisation de stratégies indirectes. Et pour autant, on n'investit pas. Les États n'investissent pas dans la résistance civile, ce qui fait que quand il survient un événement aussi grave qu'une l'invasion d'un pays, eh bien finalement, la population est largement démunie et il n'y a que soit la fuite, soit la soumission, soit les armes pour y répondre, et c'est assez dramatique.
Oui, donc la résistance civile, il y a une efficacité mal connue, et en fait mal connue et donc non préparée. Et donc souvent on a l'impression de dire, eh bien, il n'y a que la guerre ou la soumission. Or, il y a une voie entre la guerre et la soumission.
Voilà, c'est tout le témoignage et toute l'action de Gandhi, hein, qui a montré qu'il existait une alternative entre la résignation et la violence. Et cette alternative, c'est la non-violence, l'action non-violente. Donc un peuple sans armes n'est pas un peuple sans défense. Il convient de continuer à étudier. Et aujourd'hui, justement, à cause de la guerre en Ukraine, on réactive les réflexions, les recherches, les études autour de la résistance civile, voire même d'une défense, ce qu'on appellerait une défense civile non violente, c'est-à-dire une politique de défense choisie par la nation pour se défendre en cas d'agression extérieure.
Oui, donc il y a des gens qui travaillent, mais qui diffusent ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté à diffuser ? Est-ce qu'il y a une volonté pour éteindre, pour empêcher peut-être ces idées à passer, ou c'est la culture de la violence est tellement forte que...
Oui, la culture de la violence et de la guerre est très développée, au point que les mouvements dits non-violents sont très faibles en France, mais ils ne sont pas inactifs. Il existe une revue, par exemple, la revue Alternative Non-Violente, une revue de réflexion trimestrielle qui prépare pour dans quelques mois un numéro assez consistant sur justement les possibilités d'une défense civile non violente en cas d'agression extérieure ou en cas de coup d'État. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis un an, et c'est justement la guerre en Ukraine qui nous a amené à réactiver cette réflexion qui avait été un peu mise de côté depuis la chute du mur de Berlin, depuis les années 90. Voilà, donc ce dossier va paraître et va réactiver une réflexion qui est plus que jamais d'actualité.
Merci. Alain Ruffalo, on va continuer la semaine prochaine.
Merci Yves.